Bonjour Patrick Caner.
Bonjour Monsieur Rivière.
Des violences ont eu lieu dimanche en marge du défilé du 14 juillet qu'on a attribué aux Gilets jaunes et puis des violences dans la soirée également sur les Champs-Élysées après les manifestations des supporters de l'équipe d'Algérie qui s'est qualifiée, comme vous le savez, dimanche soir pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les élus, les habitants, les commerçants du quartier n'en peuvent plus. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui prendre des mesures peut-être un peu radicales pour que ce genre de scène ne se reproduise plus ?
Monsieur Castaner sera sûrement questionné tout à l'heure à l'Assemblée nationale sur les moyens de la police pour faire face à ce type de débordement que je qualifierais d'inacceptable. Le mot est classique maintenant dans la bouche des politiques, mais je dirais même d'insupportable, comme vous le dites, pour les habitants, pour aussi les commerçants qui essayent de faire vivre la plus belle avenue du monde, comme l'on dit fréquemment. Ce que je considère, c'est que il y a là le signe d'une fracturation de la société française. C'est une hystérisation de cette fracturation, comme pouvait l'évoquer Monsieur Fourquet, un célèbre sociologue qui a parlé de l'archipélisation. Mmh. Et là, nous sommes devant une fracturation de la société, des jeunes qui prennent le prétexte d'une victoire d'une équipe nationale qui n'est pas la leur, mais ils s'y reconnaissent par leurs racines, et cela est tout à fait compréhensible, mais qui utilisent cette victoire pour faire finalement de la provocation. Ça a été le cas pour ces jeunes d'origine algérienne, mais ce sont d'abord et avant tout des jeunes français, j'insiste là-dessus, et pas depuis une ou deux générations, depuis trois générations.
Et à chaque fois, le scénario est le même. Ça commence dans la joie, c'est assez familial, et puis en fin de soirée, ça dégénère.
Ça commence dans la joie et ça finit dans la joie pour l'immense majorité de ces supporters.
Mais c'est une... Oui, ceux qui sont venus faire vraiment la fête sont repartis.
Exactement, et c'est une minorité qui a cassé. Et moi, je m'interroge pour connaître les origines territoriales, de quel quartier vivent ces jeunes. Est-ce qu'il y a des manipulations, des instrumentalisations
De la part de qui ?
Pour arriver à des provocations, vous savez, il y a quand même des mouvements salafistes qui existent lourdement dans ces quartiers, et puis qui peuvent considérer que si ces jeunes algériens d'origine algérienne commettent ce type d'exaction, eh bien ça peut servir l'extrême droite dans notre pays. Et si l'extrême droite progresse, ça peut renforcer la radicalisation dans ces quartiers. Vous savez, il y a une démarche de vrille qui doit être, selon moi, dénoncée, sous réserve bien sûr que ce propos que je mesure soit confirmé dans les faits. Mais j'ai été ministre de la ville et je sais quels sont les outils, les moyens que peuvent mener des groupes salafistes pour désorganiser notre pays. Donc il y a un danger potentiel, et donc il faut que la police soit à la hauteur, mais surtout la justice en la matière.
Vous allez réunir demain au Sénat pour un pot de fin de session un ancien président de la République, François Hollande, trois anciens premiers ministres, Bernard Cazeneuve, Lionel Jospin, Jean-Marc Ayrault, et deux anciens premiers secrétaires du Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambadélis et Martine Aubry. De quoi va-t-il s'agir ? Est-ce que c'est une rencontre purement amicale, ou est-ce qu'il y a une intention clairement politique dans cette démarche ?
L'amitié n'empêche pas la vision politique. Et donc ce sont les deux qui sont visés. C'est vrai que c'est une rencontre amicale. Nous organisons traditionnellement, en fin de session, un pot, comme on dit, dans les locaux du Sénat, où nous invitons aussi nos collègues députés.
Sans Omar,
vous l'imaginez bien, un pot avec quelques petits fours, sûrement, mais de manière raisonnable, d'autant plus que c'est payé par le groupe socialiste du Sénat, qui n'a pas beaucoup de moyens. Donc rassurez-vous, il n'y aura pas de débordement. Par contre, ce que nous avons voulu signifier en la matière, et je remercie tous nos invités d'avoir accepté cette invitation. Même Laurent Fabius aurait bien voulu venir comme ancien Premier ministre de François Mitterrand, mais ses fonctions à la présidence du Conseil constitutionnel l'en empêchent pour des raisons évidentes. À partir de là, tout le monde a accepté l'invitation. Et nous nous retrouverons en famille. Alors, n'y voyons pas un symbole plus qu'il n'en faut. Ce n'est pas un congrès de refondation du Parti Socialiste qui aura lieu demain dans les jardins du Sénat. C'est simplement la volonté de dire que les socialistes ont à passer, c'est glorieux, diraient certains, qu'ils ont une histoire et qu'ils veulent, à partir de cette histoire, rebâtir un avenir politique. Nous ne voulons pas devenir un groupuscule dans l'histoire de la Ve République. 6%, c'est rien. Avec 6%, je ne suis même pas certain que nous puissions avoir un candidat pour les élections présidentielles de 2022, qui sont pourtant très très loin. Par contre, ce que nous voulons dire aux Français, c'est que ce que nous avons fait pour ce pays, pendant tous ces quinquennats ou toutes ces gestions majoritaires dans le pays, je pense à la période de cohabitation 97-2002, ça a du sens, mais il est vrai que nous devons aujourd'hui bâtir une stratégie et aussi avoir une incarnation pour cela.
Parmi ces personnalités, je vais redire rapidement leurs noms, François Hollande, Bernard Cazeneuve, Lionel Jospin, Jean-Marc Ayrault, Jean-Christophe Cambadélis et Martine Aubry, laquelle ou lesquelles ont selon vous encore un fort avenir politique?
Si j'en crois les sondages, et si j'en crois surtout mon sentiment,
oui.
Je suis convaincu que Bernard Cazeneuve aujourd'hui, pour le court et le moyen terme, oui. Vous savez, le long terme, nous verrons bien, mais pour le court et le moyen terme, est sûrement le personnage politique dans nos rangs qui a...
Mais vous contribuez à ces sondages, non? Parce que vous faites un peu sa promotion, vous souhaitez qu'il prenne des responsabilités.
Oui, je l'ai souhaité, y compris pour les élections européennes, cela n'a pas pu se faire. Je souhaite aujourd'hui que Bernard Cazeneuve, qui est un homme d'État, marqué par sa loyauté envers François Hollande, qui le reconnaît bien volontiers, un homme d'État qui a porté de grands événements, en tout cas qui a supporté de grands événements avec la force qu'on lui connaît, notamment je pense à la période des attentats de 2015 et 2016. Je pense qu'il a une place particulière dans le cœur des Français et qu'il apparaît aujourd'hui comme celui qui peut incarner, avec d'autres, dans le cadre d'un projet politique, incarner cette alternative à la dérive extrêmement libérale aujourd'hui du gouvernement, d'Edouard Philippe, du président de la République, et que la gauche du gouvernement, la gauche social-démocrate, a une place dans ce pays. Je me refuse à ce qu'il y ait pour notre pays, pour de nombreuses années, un extrême-centre porté par M. Macron et ses amis face à une extrême droite. Il y a une place pour la gauche du gouvernement, et heureusement, en tout cas, c'est pour cela que nous nous battons et que nous aurons cette rencontre demain soir.
Vous évoquiez les 6% du Parti Socialiste, d'ailleurs aux deux derniers scrutins finalement, hein, présidentiel et européenne. Il y a un autre scrutin qui approche, ce sont les élections municipales. Est-ce que vous redoutez que la chasse, hein, puisque le terme a été employé, la chasse aux maires socialistes lancée par La République En Marche ne fonctionne et ne contribue finalement à de mauvais résultats en 2020?
Le hasard des dates fait que tout à l'heure au Sénat, nous allons adopter la loi créant un office de la biodiversité. Je crois à la biodiversité en politique.
Il faut protéger les maires socialistes dans le cadre de la biodiversité.
Je ne sais pas si nous sommes une espèce en voie de disparition, mais nous sommes une espèce politique. Et que la chasse qui est organisée, y compris en direct par M. Le Drian, ministre des Affaires étrangères, qui téléphone lui-même à des maires socialistes.
Ça, vous en avez la certitude?
J'en ai la certitude, bien sûr. C'est quand même assez extraordinaire. Quoi. Le ministre des Affaires étrangères, il y a peut-être d'autres choses à faire que de passer les coups de fil pour essayer de débaucher des maires socialistes. C'est bien un débauchage, un siphonnage, un braconnage, pour reprendre une expression de chasse. Mais ce à quoi je réponds invariablement, mais allez-y les amis de République En Marche, vous êtes un parti présidentiel, certes jeune, mais comptez-vous dans toutes les villes de plus de 10 000 habitants. Arrêtez d'aller, encore une fois, faire ce siphonnage qui n'est pas digne, qui est même, je veux dire, indécent par rapport à l'image qu'on peut avoir d'une classe politique dans notre pays, avec l'histoire qui est la nôtre. Moi, je regrette cela, je le dirai, y compris notamment demain, à ce pot amical que vous évoquez il y a quelques instants. Je considère que En Marche, finalement, est très fragile. Ils ont gagné, dans les conditions que nous savons, une élection présidentielle, complétée par une élection législative. Les européennes ont été malgré tout un succès pour le président de la République, qui a dû se mouiller sa chemise lui-même. Mais tout repose sur le président de la République. Et on voit bien que la faiblesse d'En Marche, c'est son implantation territoriale, qu'ils veulent compenser, ça je peux le comprendre, mais avec des méthodes qui ne sont pas dignes du Nouveau Monde. On est vraiment là dans une forme de féodalisation de la vie politique française, en disant « venez baiser ma main, et puis vous aurez notre soutien ». Ce n'est pas acceptable.
Merci Patrick Kanner. Bonne journée.